Voilà, nos invités du jeudi, eh bien, on retrouve donc le père Luc Crépy et le père Patrice Missonnier. Alors maintenant, on va parler. Il y a quelque chose que j'ai lu parce que j'ai suivi un peu ce que vous faisiez dans la Haute-Loire. Et alors, vous avez été dans un coin qui est où il y a très peu de catholiques, c'est le Mazet-Saint-Voix, hein, où il y a des protestants. Et je crois qu'on a dit qu'ils n'avaient pas vu un évêque depuis 4 siècles.
Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évêques qui sont venus là-bas. On pense qu'au moins, peut-être, puisque l'église s'appelle Saint-Voix, donc Saint-Vosy, et Saint-Vosy, c'est 374. Alors, je ne sais pas si Saint-Vosy est passé par le coin et qu'il a laissé son nom pour l'église qui existe là. Mais donc, bon, voilà, oui, j'ai eu, quand je visite le diocèse, ben, je suis très heureux de rencontrer... nos frères protestants, et donc au Chambon-sur-Lignon, à Tens, au Mazet, j'étais très très chaleureusement reçu par le conseil municipal, on a discuté, et bah, vous savez, je pense que il faudrait déjà qu'entre chrétiens, bien sûr, je pense que c'est ce qui est le cas, on vit beaucoup de choses maintenant très positives, le pasteur, je rencontre après le pasteur, les prêtres, mais aussi catholiques et protestants sur le terrain, il y a plein de choses qui se passent ensemble, et heureusement, on est sorti un peu quand même des dragonnades qui décimaient la Haute-Loire et l'Ardèche au XVIIe siècle, hein, c'est vrai. Et donc, moi, j'étais très heureux de pouvoir discuter avec eux. Alors, c'est vrai qu'au Mazet, il y a très peu de familles catholiques, donc, à mon avis, il n'y a pas de prêtres, d'ailleurs, hein, il n'y a pas d'ailleurs d'église, il y a un temple, l'église elle est œcuménique, on ne célèbre, voilà, à Saint-Voix on ne célèbre ni la messe ni le culte, mais on prie ensemble, donc ça c'est assez intéressant. Et donc au Chambon j'étais visité aussi le musée de la mémoire, puis j'ai rencontré les pasteurs, à Tens le conseil presbytéral. Moi je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein, entre catholiques et protestants.
Oui, bon, c'est vrai qu'à une époque, c'était un peu la guéguerre, qu'on va dire. Enfin, c'était la vraie guéguerre à une époque, hein. Mais maintenant, bon, on voit dans tout, hein. Je crois qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, quoi, si, dans les deux religions, hein.
Ah, bah, c'est des chrétiens, non, c'est même pas deux religions.
Oui, c'est pas deux
religions.
C'est une seule religion.
C'est le christianisme.
Ouais, c'est le christianisme.
Dans le christianisme, vous avez les catholiques, les protestants, puis les orthodoxes.
Donc,
hein, voilà, c'est les trois grandes, je dirais, confessions chrétiennes, mais qui croient tous en la résurrection du Christ. En fait, ce qui nous sépare, il y a toujours les gens qui voient ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit est quand même, je dirais, beaucoup, beaucoup plus large que ce qui nous sépare.
Oui, bah, bien sûr, ce qui sépare beaucoup, ce qu'on voit entre les protestants et les catholiques, c'est qu'il y a le célibat d'un côté et pas de l'autre.
Ah, je pense qu'il y a des questions. Alors, il y a ça, mais il y a des questions.
Non, mais ça, c'est pas la question essentielle.
Ouais, ça, c'est pas la question essentielle.
C'est ce que les gens voient tout de suite, parce que disent.
Parce qu'il y a des prêtres catholiques mariés en Orient. Donc, à mon avis, la question, c'est plus des questions sur peut-être la conception des sacrements ou certaines choses dans l'Église. Mais on va peut-être pas rentrer dans les détails trop techniques, sinon, j'ai peur que vos éditeurs se disent que ça va devenir trop théologique.
Oui, non, mais c'était juste voilà. Pour faire
mais,
un raccourci.
Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on m'a raconté qu'il y a 50 ans, quand il y avait une jeune fille protestante, par exemple, qui voulait épouser un jeune homme catholique ou réciproquement, c'était vraiment très difficile, très, très douloureux. Tandis qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une collaboration qui se fait de manière très, très heureuse ensemble.
Oui, ben on a vu, ben, puisqu'on parlait du pape François tout à l'heure, que lui, il est assez ouvert à ça. Hein, je dirais qu'il a rencontré tous les
grands responsables religieux, autres que chrétiens.
Voilà, mais je crois que c'est bien, parce que finalement, bon, chacun a ses convictions. Bon, je pense qu'il y a du bon partout, il y a du moins bon peut-être aussi partout, mais je crois qu'on est là pour vivre tous ensemble. Quoi,
ce qui serait génial, c'est voilà, que les religions... s'entendant entre elles, montre que finalement la religion est quelque chose qui devrait apporter plus de fraternité, plus de paix entre les hommes. Ça, à mon avis, c'est ce à quoi doivent aspirer toutes les religions. Qu'entre juifs, musulmans, chrétiens, on se reconnaisse, on se respecte et qu'on sache que nous sommes porteurs d'un peu plus de fraternité dans notre monde. Ça, c'est vraiment ce vers quoi doivent tendre les religions.
Là, il y a du travail. Hein, parce
là, il y a du travail, oui, il y a du travail.
Quand on voit tout ce qui se passe...
Mais il y a des tas de choses qui se font quand même aussi, oui. À droite, à gauche, quand même. Hein. On voit souvent peut-être les côtés un peu extrêmes qui nous sont montrés, mais sur le terrain, il y a aussi des tas de choses. Hein. Moi, je connais des communautés de religieuses, des vieilles sœurs qui habitent dans des quartiers un peu chauds, où il y a aussi, bah, qui sont très en lien, par exemple, avec les femmes musulmanes, parce qu'elles se connaissent, elles se rencontrent, il y a beaucoup de choses. Il y a des très beaux échanges qui se font.
Oui, mais c'est naturel, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas de... la preuve, on est tous différents, mais on peut se rencontrer.
Bah, bien sûr, il ne faut pas que la religion soit une barrière. Non. Elle l'a été, malheureusement, et elle l'est encore, mais il y a toujours un travail à faire, je pense.
Alors, un petit peu avec le père Patrice, quand même, lui, on va lui demander son ressenti d'avoir reçu le père Luc Crépy. Comment, vous qui êtes plus près des paroissiens, comment ils l'ont vécu?
Bien, les retours que j'ai... D'abord, avant les retours, c'est plutôt les moments que nous avons vécus déjà dimanche. Dimanche, nous avions une église comble. Hein, une église comble qui était heureux, je crois, les gens étaient heureux d'être là, à chanter, célébrer, prier ensemble. On a vécu un beau moment d'église. Voilà, ben, quand, par rapport à ce que vous veniez de dire, le sujet que vous aviez abordé, là, on ne pense pas aux divisions, on ne pense pas à ce qui désunit. On est simplement dans le moment, on est heureux d'être ensemble, voilà, on prie. Puis en plus, c'était le rassemblement interparoissial, donc c'est des moments qui contribuent à faire l'unité de tout l'ensemble paroissial, de nos 17 clochers.
Et alors, vous l'avez découvert, le père Luc Crépy, peut-être un peu plus près, là, puisqu'il a vécu vous êtes passé 3 jours ensemble. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi je ne l'ai pas découvert pendant les 3 jours parce que j'ai la chance depuis qu'il est arrivé de l'avoir rencontré plusieurs fois. Puisque comme il nous le disait tout à l'heure, il a rencontré chaque prêtre personnellement. Donc déjà j'ai une rencontre personnelle. Il était venu aussi au mois de septembre dernier pour la rentrée interparoissiale où nous lui avons présenté tout notre ensemble paroissial. Et ben, ce qui. Alors, au niveau personnel, vous me demandez.
Oui, personnel, oui, un peu.
Mon niveau personnel rejoint.
C'est votre patron maintenant.
Ah, c'est pas vraiment un patron. Non.
Ah, c'est le chef de l'église.
Oui, c'est le successeur des apôtres, donc c'est le père du diocèse. Hein. Donc, au sens, il y a une dimension forte de quand on dit le mot père, voilà, c'est vraiment celui qui a la paternité et qui l'exerce. Donc il y a un lien particulier de l'évêque avec les prêtres. Ce n'est pas tellement un lien hiérarchique, c'est plus un lien filial de respect, d'écoute. Et moi, ce que je découvre avec Monseigneur Crépy, c'est que c'est un lien de grande simplicité. Voilà, les échanges sont faciles. C'est aussi des échanges dans la vérité. Voilà, hein, on ne fait pas des détours pour dire une chose. Les choses se disent simplement, clairement, elles sont posées, voilà. Donc du coup, les choses se passent finalement sans qu'on se pose trop de questions. Et je vois que les retours que j'ai des 2 jours là, qui se sont passés, c'est la même chose. Les gens sont touchés par la simplicité de la rencontre, des échanges, que ce soit avec les maires des communes comme hier, ou aujourd'hui avec les jeunes agriculteurs, ce midi où on a rencontré un groupe de personnes qui sont pas forcément tous d'église, mais des gens de bonne volonté, qui sont plus sur une réflexion de ce qu'il y a aujourd'hui qu'on voit beaucoup, sur une société solidaire, une société du partage, de l'équitable. Donc et dans tous les cas, c'est la même simplicité, un partage convivial qui se fait sans souci.
Très bien, donc voilà, mais c'est vrai qu'on le voit au travers de cet entretien qu'on a ensemble, qui nous met tout à fait à l'aise, hein, parce que malgré le titre, on voit que c'est quelqu'un qui est très jovial, qui aime plaisanter. Je pense que c'est un peu les gens du Nord. Hein.
Ah, je sais pas, on dit que les gens du Nord, c'est comme les gens de Haute-Loire, il faut un peu les apprivoiser. Mais une fois qu'on les a apprivoisés, ils sont en général assez chaleureux, oui, ça c'est vrai. Ceux qui ont vu le film, les ch'tis, oui. On s'en convaincus, voilà.
Alors vous êtes à la ville du Puy-en-Velay, on sait que c'est une ville... éminemment religieuse, qui a déjà des monuments extraordinaires, enfin qui est une ville magnifique. Hein. Je crois qu'on y descend régulièrement, mais moi je sais quand je suis à l'approche du puits, qu'on arrive, qu'on surplombe le puits, mais on est toujours émerveillé, même si on y est passé 1000 fois, parce que alors, pour vous, ça doit être aussi un autre challenge, parce qu'il y a cette belle ville où il passe beaucoup de monde, il y a le chemin de Saint-Jacques, tout... Donc c'est autre chose encore pour vous, non, je pense.
Alors c'est autre chose, et puis cette année, il y a le fameux jubilé aussi,
en plus,
le jubilé de Notre-Dame du Puy, donc depuis le 25 mars jusqu'au 15 août, vous avez quand même beaucoup de gens qui viennent faire ce qu'on appelle la démarche jubilaire, hein. Rappelons que le jubilé, c'est l'année où le 25 mars, jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le jour où l'ange annonce à Marie qu'elle veut devenir la mère de Jésus, tombe le même jour que le Vendredi Saint. Et le vendredi saint, c'est le jour de la mort de Jésus. Donc, jour de la conception, jour de la mort, et où Marie est présente, puisqu'à la croix, Marie est au pied de la croix. Et donc, depuis des siècles et des siècles, quand il y avait la conjonction de ces deux grands moments de la vie chrétienne, eh bien, l'année était... Enfin, l'année non, il y avait un jubilé. Voilà. Au départ, il durait quelques jours, maintenant, il dure plusieurs mois. Et donc, ce jubilé, c'est une occasion pour les chrétiens de venir en pèlerinage à Notre-Dame-du-Puy et de vivre une démarche, je dirais, un peu de renouveau intérieur. Alors il y a un village d'accueil, il y a la visitation, et puis les gens sont guidés, il y a le baptistère, on rappelle son baptême, on va à la pierre des fièvres, on peut se confesser, il y a la messe, enfin c'est toute une démarche spirituelle où les gens viennent faire ce pèlerinage du jubilé de Notre-Dame-du-Puy. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, depuis maintenant un mois, c'est assez impressionnant.
Et puis en plus, on dit, il y a quand même ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui est devenu. Alors là aussi, bon, on va pas. Là, on pourrait faire des émissions, mais je regardais l'autre fois, je suis tombé sur quelque chose, justement, une dame qui parlait de Saint-Jacques de Compostelle et qui disait qu'elle, elle l'avait fait par conviction religieuse, mais qu'elle avait rencontré des gens qui étaient là. Tout à fait autrement. Vous les rencontrez, vous avez rencontré quelques Saint-Jacquaires?
Alors j'en rencontre parce que tous les matins, à la cathédrale, il y a une messe à 7h. Il faut savoir qu'il y a 15 000 pèlerins sur les 30 000 qui passent à la cathédrale. Donc tous les matins, à 7h, il y a une messe pour les pèlerins qui le désirent. Alors dedans, il y a des gens croyants, d'autres des gens loin de l'église, mais qui viennent à la messe. Parce que c'est... Et à la fin de la messe, il y a la bénédiction des pèlerins. Et donc là, en ce moment, c'est entre 100 et 200 pèlerins à chaque messe, hein. C'est très important. Et donc, moi je célèbre souvent deux fois par semaine la messe de 7h, et donc une fois que la bénédiction est faite, eh bien, je prends souvent le temps de discuter, alors c'est très intéressant, vous avez des jeunes, des vieux, des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, d'Alsace, de Bretagne, enfin il y a toute une diversité de gens, et puis des motivations très diverses, mais peut-être ce désir commun de se dire, ben voilà, marcher pendant longtemps, parce que si on va jusqu'à Saint-Jacques, il y a aussi quelque chose de... Oui, quelque chose de spirituel, au sens... quelque chose qui va me faire travailler intérieurement. Hein. Les pieds marchent, mais pendant ce temps, mon cœur, mon esprit, ça, des choses qui se passent. Et donc, c'est assez intéressant. Puis, je pense que les gens sont prêts à se rencontrer les uns les autres, à discuter. Il y a une espèce de, oui, de fraternité des pèlerins qui se joue sur ce chemin. Et moi, je trouve que c'est une belle expérience.
Alors, on dit qu'il paraît, que moi, j'ai des copains qui l'ont fait, il paraît qu'il faut le faire en solitaire pour vraiment que ça soit efficace. Ils disent qu'il faut partir tout seul parce que, justement, on marche, mais pendant ce temps, on réfléchit beaucoup.
Oui, mais enfin, on peut partir, quand on marche, de toute façon, même à plusieurs, on parle pas tout le temps. Enfin, je veux dire, on peut partir à plusieurs, sachant qu'il y a des fois, on peut marcher pendant une heure ou deux avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, donc obligatoirement... De toute façon, à mon avis, au bout de 10 jours de marche avec les personnes, vous n'avez plus grand-chose à vous dire. Alors, du coup, vous marchez un peu en silence. Alors, il y a des gens, oui, qui le font seuls. Il y en a, mais souvent, quand même, les gens partent à 2 ou 3, quand même. Et, bon, enfin, ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense que, de toute façon, le chemin, personne ne le fait à votre place. Donc, la fatigue, la marche, votre histoire personnelle font que, je pense que, d'une certaine manière, on se retrouve quand même un peu seul quand on marche.
Alors, vous avez fait déjà un 15 août, ou puisque vous êtes arrivé le 15 avril, donc oui. Ça aussi, au Puy, c'est une très grande fête, hein, ça doit être assez impressionnant, vous connaissiez peut-être, mais vous n'y avez jamais
assisté. Ah non, je ne connaissais pas du tout, alors c'est très impressionnant, puis cette année avec le jubilé, il va y avoir encore plus de monde, hein. Ah oui, tous les rues du Puy sont pleines de personnes, beaucoup de gens qui font la procession, donc une démarche de foi, puis des gens qui viennent aussi participer d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que c'est impressionnant. Puis quand on monte, vous savez, la rue des Tables, puis après les escaliers de la cathédrale, et que du haut de la cathédrale, vous voyez cette rue qui est bondée de pèlerins, de personnes, c'est quand même très impressionnant. Puis bon, quand on est en haut de la cathédrale, là, on a cette vue superbe sur le Puy, avec toutes ces personnes qui viennent faire cette procession, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Donc, votre tour de la Haute-Loire prendra fin au mois de juin, vous m'avez dit, je crois, c'est ça?
Oui, je pense que fin juin, j'aurai visité tous les ensembles paroissiaux et quadrillé tout le département.
Alors, à la suite de ça, vous allez vous poser des questions, sûrement.
J'espère.
Et il y aura des orientations qui vont naître de ces rencontres, ou vous avez déjà des idées, je pense, sur... c'est votre premier ministère, donc...
Faut que j'apprenne mon métier.
Ah ben, vous le savez un petit peu, d'après ce que vous m'avez dit, je vois que vous avez beaucoup voyagé, vous avez appris, puisque vous avez rencontré plein de gens, hein, très différents, hein, des pays différents, où, enfin le Brésil, où c'est très, le catholicisme est très impliqué, hein, sont très très croyants, hein, donc, mais bon, la Haute-Loire c'est pas tout à fait pareil, j'ai pas le même climat.
C'est pas tout à fait le Brésil, la Haute-Loire, c'est vrai.
Donc à partir de là, ça vous a donné des idées déjà ou...
Alors, moi, en faisant toutes ces visites, j'écoute beaucoup, si vous voulez. Et bien sûr, dans le dialogue avec les personnes, il y a un certain nombre de questions qui me sont posées. Par exemple, des questions qui préoccupent pas mal les gens, c'est-à-dire à savoir, comme le nombre de prêtres diminue, vous voyez, comment on va penser la vie des paroisses plus tard, c'est-à-dire comment on va peut-être restructurer un peu les paroisses, qu'est-ce qu'on va mettre comme commune ensemble, où est-ce que les prêtres vont être, parce que les prêtres, aujourd'hui, sont assez sensibles pour ne pas habiter trop loin les uns des autres, comment les chrétiens eux-mêmes vont se prendre en charge sans doute pour animer pas mal de choses à droite à gauche, donc voilà, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Il y a aussi des demandes au niveau des jeunes, parce que les jeunes sont peu présents dans nos églises, donc qu'est-ce qu'on va, les jeunes, et puis même les jeunes familles, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi pour les rencontrer, pour être plus en lien avec elles. Donc voilà, un certain nombre de questions que je rencontre. Alors après, il faut prendre le temps de réfléchir, de faire le point, et puis dans les années qui viennent, se dire, tiens, il serait bon pour le diocèse d'aller plutôt dans tel sens ou dans tel autre.
Oui, vous parlez des jeunes, c'est vrai que les jeunes sont devenus un petit peu, je dirais, difficiles. Nous, on l'a peut-être été, mais c'était différent. Mais on a du mal, à les faire venir dans les églises. Alors, il n'y a peut-être pas que... Il y a le problème aussi que tout le monde court après le temps. On ne sait pas après qu'on court, mais on court après quelque chose. Et parfois, on ne prend pas le temps de se poser.
Oui, ça, c'est ce qui manque. Et je pense que... Peut-être il y a quelque chose qui a à voir, vous voyez, avec la religion, et je dirais moi avec la foi chrétienne en particulier, c'est-à-dire la dimension d'intériorité. Voilà, on est pris par beaucoup de choses extérieures. Voilà, les jeunes, parfois, ils sont toujours avec leur smartphone à la main, leur tablette, leur je sais pas quoi, la musique. Et proposez cette expérience de se retrouver un peu, vous parliez du chemin de Saint-Jacques tout à l'heure, hein, de se retrouver un petit peu de temps en temps dans le silence, seul. En plus, je dirais, en Haute-Loire, on a des paysages si beaux, on a des petites églises si charmantes. Enfin, je pense qu'il y a une proposition à faire pour un peu se ressourcer, s'arrêter, quel sens je donne à ma vie, comment je m'arrête. Des fois, les choses sont lourdes à porter. Mais si je ne m'arrête pas, elles sont encore plus lourdes. Vous voyez, je pense qu'il y a des propositions à faire pour, dans notre société où on court un peu, comment on s'arrête. Et je pense que la dimension spirituelle commence quand on a une certaine liberté intérieure et capacité d'un peu de silence.
Oui, alors on parlait des prêtres, puisqu'on sait que maintenant, il y a de moins en moins, ils n'ont plus la vocation, on n'a plus la vocation. Ça, c'est un problème pour l'Église. Comment le régler ?
Ça, c'est un problème pour l'Église en France. Il y a d'autres pays où les vocations sont très très nombreuses, hein, ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que... vu la moyenne d'âge des prêtres en Haute-Loire, et encore la Haute-Loire est un diocèse très très gâté par rapport aux autres diocèses, si vous regardez la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, ici on a un nombre de prêtres relativement important, mais c'est vrai que dans les prochaines années, vu la moyenne d'âge, le nombre de prêtres va diminuer. Alors bien sûr, tout le monde me demande des prêtres, mais moi j'ai pas des prêtres dans mes poches comme ça. On va peut-être qu'il faut aussi, au niveau des jeunes, que la proposition de devenir prêtre puisse être faite. On a deux séminaristes, vous voyez, c'est pas beaucoup quand même. Alors, il faut peut-être aussi penser la vie de l'Église. Bien sûr, les prêtres sont indispensables, mais la vie de l'Église, en particulier dans des tas de communes où la messe ne peut pas être célébrée systématiquement tous les dimanches, eh bien, la vie de l'Église ne s'arrête pas simplement à la célébration de la messe. Il y a des tas d'endroits où il y a des propositions. Le mois de mai va arriver, le mois de Marie. Il y a des endroits où on fait des temps de prière le soir. Il y a des moments où on met du caté. Enfin, je pense que on peut essayer de trouver une Église de proximité où finalement on ne pense pas que la vie de l'Église en fonction du prêtre et de la messe. Aussi important soit l'un et l'autre. La messe, c'est le lieu de ressourcement central de la vie chrétienne, mais la vie chrétienne, ce n'est pas que la messe. C'est une manière d'être avec les autres, c'est une manière de prier, c'est une manière de se rencontrer. Et donc je pense que il y a un gros travail à faire dans les prochaines années pour que, même dans les plus petites communes, eh bien, il y ait une présence chrétienne. Voilà. Ici, on peut demander peut-être aux pères missionniers, mais ils sont en train de mettre en place des relais, vous voyez.
Oui, Patrice.
Oui, des relais, c'est-à-dire que nous, dans l'ensemble paroissial ici, 17 clochers, nous avons une équipe d'animation pastorale, voilà, hein, des personnes qui réfléchissent les choses au niveau de l'ensemble paroissial. Et donc, depuis l'an dernier, on essaye d'aller dans chaque relais, hein, l'ensemble est divisé en 6 relais. Nous sommes allés à la rencontre des relais pour essayer de réfléchir avec les gens qui sont là pour créer des équipes de relais pastorales, voilà, qui est localement dans chaque relais, une équipe qui est en charge, ce que dit notre évêque, la vie chrétienne sur place, sans que ce soit d'abord la messe et le prêtre qui soient le fondement, puisqu'on voit que les choses ne vont pas pouvoir être comme ça dans l'avenir. D'ailleurs, on parlait des jeunes. Et pas seulement les jeunes, mais je pense peut-être même les familles. Ce n'est pas forcément directement par la question de la messe. Ça vient spontanément parce que les générations qui sont à l'église actuellement, c'est quelque chose de fort pour eux. Mais les jeunes et les jeunes familles, je pense qu'il va falloir sur d'autres choses pour les faire venir. Peut-être la messe, mais par exemple une fois tous les 3 mois, quelque chose de ponctuel et de célébrant, qui intègre les enfants, une proposition plus complète, voilà. Mais pas vouloir tout de suite la messe tous les dimanches comme ça se faisait jusque-là. Il faut s'adapter à ce qui est possible pour eux, dans une vie pour les familles qui... Le progrès n'a pas simplifié la vie des familles. Hein. Moi, je suis admiratif de l'engagement des familles, des parents. Ils ont des emplois du temps qui m'impressionnent.
Alors aujourd'hui, nous recevons le père Luc Crépy, notre nouvel évêque, et puis le père Patrice Missonnier. On va arriver bientôt au terme de cette émission. On va se retrouver dans quelques instants pour la conclusion de cette émission.